Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les 3 coups sur les ondes. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que dans les 3 coups sur les ondes, on vous parle des pièces produites sur scène lors du festival des 3 coups. Hors Covid, le festival se tient de mars à avril. Mais cette année, la culture est bousculée et le festival s'adapte en diffusant les pièces produites sur sa chaîne YouTube et Twitch à partir du 5 avril. Tout au long de cette émission, vous aurez l'habitude d'entendre plusieurs voix. Aujourd'hui, vous m'entendrez moi, Zoé Paré, notre chroniqueuse, Juliette Chevet, et mes invités, Quentin Bessot et Jeanne Prodhomme. Et pour cet épisode, on vous parle de Toa, de Sacha Guitry, mis en scène par Quentin Bessot. Bienvenue dans les 3 coups sur les ondes. Toa est joué pour la première fois en 1949. Sacha Guitry l'a écrit, mis en scène et y joue le premier rôle, Michel Desnoyers. Son personnage est lui-même metteur en scène et il imagine d'ailleurs une pièce après une dispute avec sa maîtresse. Pendant la représentation, celle-ci surgit dans la salle et s'ensuit un jeu où le public est pris à partie. Pour découvrir plus amplement le travail entre réalité et fiction et la passion créatrice, je vous laisse écouter la chronique de Juliette Chevet.
Toa, c'est une pièce sur le théâtre. Même sur le théâtre, avec un T majuscule. Le héros, Michel, est passionné de théâtre et vit sa vie comme s'il était perpétuellement sur une scène invisible. Il vit son existence comme une métaphore de cet art qui le passionne. En parlant avec tant de ferveur, Michel nous transmet sa passion. Il nous donne envie d'aimer le théâtre. C'est en réalité Sacha Guitry qui parle à travers son personnage. Michel, le personnage principal, est lui-même dramaturge et s'inspire de sa propre vie pour monter une pièce. Le spectateur assiste au processus de création. Et voir ces étapes de l'écriture, voir les dessous de la représentation, donne encore plus envie d'aimer le théâtre, de la même manière que voir les making-of des films donne envie d'en réaliser soi-même. Combien de passions sont nées suite au visionnage de ces bêtisiers et autres behind the scenes? Voir les techniciens, l'effervescence des plateaux, les prises ratées. Comme ces making-of, Sacha Guitry nous fait aimer le théâtre en nous montrant comment on en fait. Michel s'inspire donc de sa propre vie pour écrire une pièce. Il mêle sa fiction et sa réalité tant et si bien que l'on ne sait plus vraiment où est la limite, comme dans le film « Le Magnifique » de Philippe de Broca. Ce film s'ouvre sur une scène d'action tonitruante, ambiance blockbuster avec île déserte et beaucoup, beaucoup d'armes à feu. Puis, cut, on voit le même homme, sous les traits de Jean-Paul Belmondo, taper frénétiquement sur sa machine à écrire dans un appartement grisâtre à Paris. Le spectateur comprend alors que la première scène est en fait le roman que l'auteur, joué par Jean-Paul Belmondo, est en train d'écrire, et cet auteur a donné ses traits à son héros. Puis, tout au long du film, il s'inspire de sa vie et de ses problèmes pour faire avancer son intrigue. Tout comme Michel dans Toa, c'est dans sa vie qu'il puise son inspiration. Sacha Guitry mêle donc habilement le vrai et le faux, jusqu'à rendre incertaine la limite entre les deux. Cette incertitude est d'autant plus renforcée par la mise en abîme. Sacha Guitry, dramaturge, metteur en scène et comédien, met en scène une pièce où Michel, dramaturge, metteur en scène et comédien, écrit une pièce inspirée de sa propre vie. Les cadres s'ajoutent les uns aux autres. Cela me fait penser au tableau « Triple autoportrait » de Norman Rockwell, où on voit le peintre Norman Rockwell en train de peindre son autoportrait. Il s'est représenté lui-même, face à un miroir et à sa toile, son pinceau en main. Ces artistes jouent avec le spectateur et le forcent à s'interroger sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, et quelle est la place de l'artiste. L'artiste doit-il rester à distance sans se montrer, ou doit-il se mettre en scène lui-même, comme le fait d'une certaine manière Guitry? Doit-il interférer dans sa propre création? Cela interroge aussi sur la créativité et le processus de création. À quel point l'artiste parle-t-il de lui-même quand il crée? L'inspiration peut-elle venir d'autre part que de l'intimité? Sous couvert de comédie, Sacha Guitry finit finalement par nous interroger sur l'art, la place de l'artiste et le théâtre, avec un grand T.
Doha, c'est l'exemple même de la mise en abîme. Mais là où le théâtre dans le théâtre a toujours existé, ici, Sacha Guitry propose au public de participer en le prenant à partie. Ce ne sont pas que des comédiens qui jouent des comédiens, c'est Sacha Guitry, le metteur en scène de Toa, qui joue un metteur en scène, Michel Desnoyers, qui lui-même met en scène une pièce dans Toa. Si je vous ai perdu, ne vous inquiétez pas, on va parler de ces notions du quatrième mur, du paradoxe du comédien et de l'honnêteté au théâtre avec mes invités cet après-midi. Pour dénouer et comprendre l'écriture subtile et le jeu grandiloquent de Sacha Guitry, je suis en compagnie de Quentin Bessot, metteur en scène de Toa et président de l'association des Trois Coups.
Salut.
Et Jeanne Prudhomme, qui incarne Maria, la servante dans Toa.
Bonjour.
Est-ce que, Quentin, tu peux m'expliquer d'abord pourquoi tu as décidé de mettre en scène Toa de Sacha Guitry ?
Assez complexe. Je pense que j'aimais bien Guitry. Au départ, j'ai bien aimé Deux Bureaux de Guitry. Il y a un monologue qui est merveilleux dans Deux Bureaux, qu'on a pas mal utilisé aux Trois Coups l'année dernière. Et chercher une pièce qui n'est pas trop borderline, parce que Guitry peut être un peu borderline parfois. Et je trouvais que Toa, je pense que je l'ai choisi de base juste pour son nom, parce que je trouvais que le nom était très drôle. Enfin, c'est improbable d'avoir trois lettres avec un accent sur le A.
Oui, on n'a pas dit que Toa, c'est T-O-A avec un accent sur le A.
Ouais. C'est pas toi plus moi, même si, voilà. Non, je pense que c'est par rapport à ça et par rapport à l'auteur. J'avais envie de bosser sur cet auteur qui maintenant est de plus en plus connu, etc. Voilà, je pense que c'est la grosse raison, et puis le titre que j'ai trouvé marrant.
Et toi, Jeanne, pourquoi t'as décidé de rejoindre Toa ?
Alors moi, j'avais auditionné pour plusieurs pièces, et Toa, c'était celle qui m'intéressait le plus, parce que c'était le personnage de Maria, en fait. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour son personnage, qui est assez... elle est toujours là, où on ne l'attend pas. Elle est censée... Enfin, elle est un peu curieuse et tout, et je croyais que ça me ressemblait un peu, et j'aimais bien ce côté un peu... elle est importante sans vraiment l'être. Enfin, c'est assez. Enfin, j'aime bien la complexité de son personnage.
Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la mise en scène en quelques mots ?
Je vais laisser le metteur en scène parler quand même.
Grande question. Non, c'est-à-dire en termes de scénos, en termes de.
Ouais, c'est ça. Et puis, comment vous l'avez travaillé aussi entre vous ? Est-ce que tu l'as travaillé avec les comédiens ? Est-ce que tu l'as travaillé tout seul ?
Alors, il y a un truc. Cool cette année, c'est qu'il y a le Covid.
Et donc c'est la première fois que j'entends quelqu'un l'appeler.
Enfin, le ou la Covid.
La Covid.
La Covid, pardon. Et donc, on a été obligé de faire des répétitions qu'en visio. Et donc, ça a été assez compliqué de faire la scéno. Je dirais même qu'on l'a bossé que 3-4 fois quand on a pu se voir en présentiel. Et je partais juste du principe d'avoir comme une sorte de plateau de jeu avec des objets dessus. Genre, je prévois ça. Et ensuite, c'est surtout les propositions des comédiens qui font que ça va rendre la chose plutôt vivante. En fait, le texte et même tout ce qui est accessoire, tout ce qui est meuble, etc. Ça va être, on va dire, instinctivement utilisé. La chaise va être utilisée comme une chaise, la table va être utilisée comme une table, etc. Donc, je pense que c'est surtout l'appropriation des comédiens qui fait que la mise en scène peut être cool.
On a aussi une très bonne équipe cette année. Je trouve qu'on a eu de la chance parce que c'est vrai que c'était compliqué avec les répétitions en visio de vraiment se faire une idée sur la troupe et d'avoir vraiment une alchimie entre la troupe, ce qui est quand même super important dans le théâtre. Et on s'en est rendu compte la première répétition qu'on a fait en présentiel. On avait l'impression de se connaître et je pense que du coup ça nous a vachement aidé pour. On était à l'aise pour proposer des choses. Même Quentin nous met beaucoup à l'aise. Il nous dit vous devez être force de proposition. Et du coup, on est vraiment très naturel, je pense, dans notre jeu. Et je pense que c'est ce qui fait la force de notre troupe.
Et tu parlais d'un plateau comme un jeu. Est-ce que tu peux expliquer ?
Ouais, en gros, juste, ce qui est important dans cette pièce, c'est que... je pense qu'on va y revenir peut-être, mais c'est un peu une mise en abîme. Il y a une pièce dans une pièce, je spoil un petit peu. Mais la scène en tant que telle... Enfin, quand on va être spectateur, on va regarder la scène comme une pièce de théâtre et on va essayer de le prendre comme une sorte de diégèse, comme un bureau qui existe avec des vrais plans, des vrais trucs, des vrais machins. Et acte 2, on se retrouve directement dans autre chose, dans le même décor, mais qu'on va considérer cette fois-ci comme un décor de théâtre. Et donc c'est assez bizarre de voir ça comme un... Enfin, c'est assez normal, pardon, de voir ça comme un terrain de jeu, parce que de base, c'est censé en être un. Et en plus, on va jouer comme si c'était un terrain de jeu. Donc en un sens... ça prend tout son sens en fait dans les prochains actes.
Oui, du coup, pour expliquer aux auditoristes, mais en fait, le premier acte, c'est chez Michel Desnoyers en tant qu'homme qui est avec sa femme et qui se bat, enfin, qui se dispute avec elle. Et le deuxième acte, c'est lui qui met en scène cette dispute-là au théâtre. Et donc, ça reprend exactement le même cadre qui est son bureau.
C'est ça. L'acte 2, c'est un petit peu la pièce de théâtre, l'acte 1, mais en pièce de théâtre. Et ensuite, acte 3, acte 4, on se retrouve, enfin, on se pose la question de si on est dans la pièce ou non. C'est ça qui est aussi intéressant dans cette pièce, parce que ça mélange le fictif et la réalité. Mais acte 3, acte 4, on retourne dans ce fameux bureau où on a écrit la fameuse pièce.
Et comment est-ce que vous avez travaillé au niveau de la construction des personnages, de la mise en scène, autour de cette idée de fiction et de réalité, et du fait que la frontière entre les deux soit hyper mince en fait tout au long de la pièce ?
Grande question. J'ai grande question à dire.
Ou c'est complexe ?
C'est complexe.
C'est super complexe.
Après, je suis force de proposition.
Moi, j'ai pas tout de suite compris le texte. Enfin, en le lisant la première fois, j'étais un peu perdue. Et heureusement, il y avait Quentin qui nous expliquait un peu. Parce que des fois, à chaque fois, on s'arrête sur une phrase, on dit « Bon, là, je comprends pas, Quentin. » Et du coup, ça va, il nous explique. Mais moi, je suis toujours un peu dans le questionnement aussi quand je fais... Moi, ça va, mon personnage, j'ai pas trop compris. Enfin, ça va ce qu'elle sort. Mais après, il y a des petites répliques aussi qui permettent de dire si t'es dans la réalité ou dans la fiction. T'as aussi des... Ouais, c'est ça, c'est des répliques qui t'aident.
C'est ça, on joue pas mal même à partir de... Enfin, pour l'acte 3, on va dire, on joue pas mal sur le côté... Enfin, c'est important, je pense, que même les comédiens, même moi, n'aient pas forcément compris si on est encore dans la fiction de l'acte 2 ou si on est dans la part de réalité. Et bah, le personnage principal le dit lui-même, que même lui, il se confond, et c'est un petit peu sa petite catharsis, d'ailleurs, à Guitry. Mais ouais, c'est important de l'aborder comme ça, comme je sais pas, comme quelque chose dans une pièce dans laquelle on se perd complètement, hein, je pense.
Je pense que c'est le but de la pièce de toute façon aussi, donc ça pose pas trop de problèmes si les spectateurs comprennent pas forcément. Enfin, c'est aussi la beauté de la pièce, je pense, de pas forcément comprendre où on est.
Et est-ce que toi, Quentin, en tant que metteur en scène, t'as l'impression que ton travail il est différent de d'autres pièces que t'as pu mettre en scène, parce que justement il y a ce truc de le premier metteur en scène qui était Sacha Guitry était aussi l'acteur principal. Est-ce que t'as l'impression que ça change quelque chose ou pas?
Alors c'est toujours différent évidemment d'une année sur l'autre avec des nouvelles personnes etc qui sont toujours merveilleux évidemment, surtout cette année. Non, là, on a fait le choix avec... donc, il y a une sixième comédienne qui joue plusieurs rôles, qui joue pas mal de rôles qui sont des rôles un petit peu plus moindres en termes de texte et en termes de profondeur aussi. Et je trouvais ça dommage d'avoir juste un rôle fonction, enfin, une personne qui joue des rôles fonction. Et on a eu cette petite idée de faire intervenir Guitry lui-même sur scène, d'avoir cette petite... le spoiler d'avoir cette petite... comme il est toujours là, quand Michel parle, il est là, tout ce que vont dire les personnes, il est là, on sait qu'il parle de ça, il parle du théâtre, il adore le théâtre, il parle de tout, il parle de lui, il aime beaucoup parler de lui, et je trouvais ça important que du coup il soit là, il soit même là pour nous embêter sur scène, et pour parfois un petit peu intervenir par rapport à ce que peut dire Michel, ou quand Michel dit quelque chose, on peut forcément se dire ah mais là c'est l'auteur qui parle, c'est le dramaturge qui parle et pas juste un personnage lambda. C'est important que ce soit lui, quoi.
Et tu me parlais hors studio du fait que tous les personnages avaient une passion pour le théâtre. Est-ce que tu peux élaborer un peu dessus ou pas?
Le fameux pouvoir T.
Bah oui, je veux en savoir plus. J'ai juste le pété, mais je savais pas.
Le pouvoir T. Non, on y a pensé à la dernière répétition, la semaine dernière, et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, les... Enfin, je change du nom, mais...
Dis et je te contredirai s'il le faut.
Je ne suis pas d'accord. non, en fait, on s'est rendu compte que, au final, Michel est vraiment passionné de théâtre, il vit théâtre, il mange théâtre, etc., et il en parle même dans sa pièce, que Françoise, pareil, est totalement animée par le théâtre, adore ça, etc., etc. Que, bon, les deux seules personnes qui ne sont pas vraiment touchées par le théâtre sont totalement à côté de la plaque dans la pièce. Et il y en a un, bon, qui ne change pas, évidemment, parce que c'est pas l'intérêt non plus de la pièce, mais il y en a une qui a tendance à vraiment beaucoup changer puisqu'elle se rend compte en fait de la, on va dire, de la puissance de la scène, de la puissance du texte, de la puissance de jouer en fait. Et je trouvais ça pas mal de me dire que au final cette pièce et même jouer et le théâtre, c'est le remède de tout, et que on voit le théâtre comme une fiction, et qu'au final si on voyait le théâtre comme une sorte de réalité, on comprendrait beaucoup mieux la vie qui nous entoure. C'est beau ce que je dis.
D'ailleurs, Michel le dit à un moment dans la pièce, si je peux un petit peu spoiler, il dit que la réalité, c'est que les gens jouent. Enfin, il dit qu'il n'y a personne qui ne joue pas dans la réalité, que tout le monde sait jouer, en fait.
Et est-ce que, du coup, pour lui, ça s'apprend, être comédien ou pas? Parce que si on écrit pour être sur scène et que ça découle directement de notre vie, etc., est-ce qu'on apprend à être comédien?
Je dirais pour les hommes, oui. Pour les femmes, non. C'est ce qu'il dit, en tout cas.
C'est ce qu'il dit, exact.
Il dit que les femmes sont évidemment beaucoup... jouent beaucoup mieux, ont une plus grosse facilité, en tout cas, à mieux jouer, et que les hommes ont forcément besoin d'un postiche, ont forcément besoin d'accessoires pour bien jouer. Mais globalement, ce qu'il dit, c'est... Encore une fois, on parle de ce que dit Michel, mais c'est totalement ce que dit Sacha Guitry,
oui,
de son côté.
C'est la même chose.
Mais... on se retrouve avec des personnes qui savent forcément jouer. C'est quelque chose qui est vraiment inné. Après, on apprend à le faire mieux ou autre. Mais on part du principe que jouer... Enfin, il part du principe que jouer, c'est mentir et que les femmes savent mieux mentir. Ça, c'est son petit côté misogyne.
On l'a dit,
ça y est, le M-word. Mais et voilà, c'est important quand même de... C'est important aussi de resituer la pièce dans son contexte. Hein, Guitry avait un certain rapport aux femmes et j'étais obligé de l'aborder, c'est quand même super important pour Guitry. Et avec sa grosse mauvaise foi, il arrive quand même à sortir quelque chose de super intéressant sur le rapport femme-homme, sur le rapport entre les hommes entre eux et puis entre les femmes entre elles. Et ça donne son petit côté super intéressant de, du coup, qu'est-ce qui est mentir, qu'est-ce qui est jouer. Est-ce que jouer, c'est vraiment mentir, ou est-ce que c'est justement obéir à la vérité ou des choses comme ça? Et donc, d'où la question qu'on a pu se poser tout à l'heure.
Et qu'est-ce qu'il dit justement de ce rapport homme-femme ou entre hommes?
Déjà, on a changé quelque chose dans cette pièce-là. Au départ, on avait un couple, parce qu'il faut resituer aussi dans le contexte, on est en 1948, on a différents mœurs, on va dire, et... l'homosexualité par exemple n'est pas forcément de ouf apprécié,
c'est
ou
pas
forcément
super accepté à cette époque,
voilà,
non, effectivement.
Ou alors on
va
considère...
pas se le cacher, vraiment, on n'est pas sûr.
Il faut être franc, c'était pas... Bon,
on considère que c'est des mœurs différents, et j'ai fait le choix du coup de transformer un personnage homme en un personnage femme, ce qui fait que la normalité, entre gros guillemets, de la pièce est qu'il y a un couple du coup de femmes, et que le côté un petit peu étrange des mœurs de la pièce, du coup de l'époque un peu intemporelle de la pièce, c'est justement d'avoir une femme qui reçoit la lettre d'un homme. Ce serait étrange quand même. Et je sais pas où je veux aller là, mais voilà, je trouvais ça intéressant de changer un petit peu ce côté-là aussi, parce que ça reste toujours, Guitry reste un homme à femme, comme beaucoup de théâtreux. Hein, on a Fedot aussi, qui avait un rapport aux femmes très, très particulier, qui sont tous fait tromper, je crois. Je balance peut-être un buzz, ça sera bientôt là, dans certains journaux, mais... Mais voilà, je pense que c'est pareil, il retranscrit aussi son rapport aux femmes, et il en fait une sorte de petite catharsis, comme ce qu'il pourrait dire dans N'écoutez pas mesdames, c'est une sorte de monologue de 30 minutes, qui parle vraiment qu'aux hommes, et au final il se rend compte dans son monologue que c'est une aberration ce qu'il est en train de dire, et que s'il déteste autant les femmes, c'est parce que sans les femmes, il n'arriverait pas à assumer pleinement la personne qu'il est. Donc les femmes ne doivent pas entendre ça, sinon elles prendraient totalement le contrôle sur l'homme qui n'est incapable de vivre sans les femmes. Du coup, je trouvais ce monologue plutôt drôle, et cette pièce...
Pourquoi est-ce que le théâtre en particulier est un si bon médium? Alors peut-être que vous allez me dire qu'il n'est pas un si bon médium, mais pour les relations amoureuses justement, et tout ce truc de tromperie et de jalousie et de tout ce qui constitue à côté aussi une relation amoureuse.
Bah, c'est un peu comme tout, de façon, tout ce qui est artistique. Je pense que c'est assez personnel, au final, quand on écrit une pièce ou quand on fait un tableau ou dans le milieu de l'art, les artistes vont être très personnels dans ce qu'ils vont produire. Et je pense que du coup, c'est pour ça que ça reflète aussi bien la réalité, parce que c'est quelqu'un qui l'a vécu et qui le met en scène. Donc ça peut que être réel au final, enfin, ça peut que faire ressortir des choses vraies de la vie. Et voilà, je pense que c'est pour ça que c'est aussi réel, mais comme tout art, quoi.
D'accord. Non, oui, le théâtre a toujours été... voilà, je vais encore parler 15 ans, mais le théâtre a toujours
Vas-y,
été...
Vas-y, je t'en prie.
Ça a toujours été un jeu de relations et
bon, il parle beaucoup mieux que moi.
Non, pas du tout. Je sais jamais où je vais aller, sur tout ça, le problème. Non, mais on est... bon, j'ai pas vécu au tout début du théâtre, mais...
Ah bon.
Et non, je n'ai seulement que 367 ans, mais... non, on a toujours utilisé...
T'as créé tard les trois coups quand même, du coup.
Oui, et oui. J'avais les deux coups avant pour ça. D'où tout le cheminement. Bientôt le quatrième, d'ailleurs.
Ça va trop long. Ouais.
Non, je pense que je ne peux pas ajouter plus que ce que tu as pu dire. Le théâtre, c'est vraiment c'est un bon médium comme... parce qu'on montre justement des personnes qui sont en train de vivre, et à partir du moment où ils vivent, ben, y a forcément des rapports sociaux, que ça soit de la colère, que ça soit de la haine, que ça soit de la tristesse, mais que ça soit aussi des choses joyeuses comme l'amour, comme le partage, la fraternité, etc. Et on le retrouve sur scène comme on a pu le retrouver, je pense et j'espère, dans une troupe de comédiens avec son ou ses metteurs en scène. Donc voilà, donc je pense que ça retranscrit pas mal aussi ce qu'on a pu vivre dans l'année.
Et quelle est la différence entre écrire sur l'amour en 1949 et écrire sur l'amour en 2020?
Oh ben, je pense que la différence, elle est grande avec l'évolution de la société, de toute façon. Je me demande même si l'amour n'a pas changé au final, enfin, si les générations d'aujourd'hui, moi-même je m'inclus dedans, je pense que le rapport à l'amour est très différent. Déjà, on a les sites de rencontres, on a tout ça qui permettent de faire des rencontres un peu forcées. Au final, c'est plus trop le destin qui te pousse à aller avec une personne. Les rapports sont pas les mêmes. Tu vas discuter par message, t'es pas en direct. C'est beaucoup de petits trucs comme ça qui font que l'amour est très différent aujourd'hui. Donc forcément, on peut pas écrire les mêmes choses aujourd'hui que l'on l'écrivait à l'époque. Donc je pense que le simple fait que les relations d'amour ou d'amitié ou les relations en général entre les personnes aujourd'hui ont changé font que ça change forcément dans le théâtre aussi. C'est la réalité de la société qui est reproduite, donc l'époque va changer, et donc je pense que c'est pour ça que, pour moi, c'est totalement différent. Mais les relations en général sont différentes.
Qu'est-ce que vous diriez aux spectateurs pour les persuader de venir vous voir?
Alors...
C'est le moment auto-promo, hein.
Le moment auto-promo, je dirais que déjà on est une très bonne troupe qui s'entend très bien. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Et je pense que ça se voit sur scène.
Est-ce que vous diriez que vous êtes comme une famille?
Oui, voilà, exactement.
On est tous frères et sœurs.
On est tous frères et sœurs. Non mais déjà, je pense que ça peut se ressentir sur scène et ça peut être assez agréable à voir la complicité qu'on a entre nous, qui s'est faite assez rapidement. Et puis... Et puis c'est quand même une pièce très drôle. Donc, enfin, nous, on rigole beaucoup en la jouant. Donc je pense que ça montre bien l'humour qu'il y a dedans. Moi, c'est une... Enfin, je sais pas comment expliquer, en fait, autre que ça.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien. Ouais, non, cette pièce, elle fait du bien. Elle est à prendre avec... Avec autant de légèreté que de complexité. Donc c'est... C'est à peu près tout ce que je peux dire. Venez nous voir. Et moi, je suis très drôle.
Non, on a que des personnages en couleur. Non, mais c'est...
Oui, c'est ça.
Ouais, on a des personnages qui feront forcément penser à quelqu'un qu'on connaît forcément dans notre entourage. Et...
Les personnages sont très différents.
Ouais.
Tous. Chacun a sa personnalité très précise. Et il n'y a aucune ressemblance entre les uns et les autres. Donc, c'est pas ennuyant.
Et même sa patte en tant que... Pardon, en tant que comédien, enfin, vous êtes extrêmement différents dans la troupe. C'est pour ça que vous formez d'ailleurs une très très bonne troupe. J'ai oublié de le dire.
Tu nous l'as dit en plus qu'on était très différents les uns des autres. C'est peut-être ce qui fait la force aussi.
C'est ce qui fait que c'est une très bonne troupe. Et puis on manque aussi de, on manque un peu de pièces de théâtre depuis quelques temps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de. D'un moment
non,
un peu,
je
un
vois
peu,
pas ce que tu veux dire.
Un peu chiant, je sais plus, ça s'appelle le coco.
Là, là,
là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, non.
Grand moment de radio, comme on dit.
Mets des pouces, s'il te plaît, Quentin.
Pouces. Non, c'est toujours un plaisir, surtout que, bon, en fait, c'est un exercice très, très particulier. Et je pense qu'on peut voir, on va pouvoir voir, évidemment, si vous venez voir cette pièce. Que même si on ne s'est pas vu toute l'année, même si on s'est vu vraiment que ponctuellement sur certains passages ou autres, il y a une alchimie qui s'est créée, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une alchimie qui se crée forcément entre les personnes et ça se voit forcément sur scène. Ça s'est vu en répétition, ça se voit même en visio. On a vu qu'on avait des jambes quand on s'est vu en vrai, c'est plutôt pas mal.
Donc, on s'était posé la question pour plusieurs d'entre nous, est-ce que tu as des jambes ?
Certains n'ont même qu'une seule. C'est plutôt fou. Non mais on voit quand même que quoi qu'il arrive, c'est en tout le monde, et je pense que là où ça rejoint pas mal la pièce, c'est que c'est en tout le monde, on a tous envie de jouer, on a tous en nous quelque chose de Tennessee.
Oh non, qui fait que, j'aurais été sûre qu'il allait sortir.
Quelque chose qui fait que oui, on...
J'ai besoin de la ref du coup.
On a
tu l'as pas
jouer. Non,
la
c'est
musique.
Une chanson. On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Je crois que c'est pas vraiment les paroles
c'est
comme
Johnny.
Ça.
C'est Johnny ça, non
c'est,
je dis complètement une connerie peut-être.
Je sais pas. On dirait c'est Aya Nakamura pour la radio.
Voilà.
Ok, ça marche. Je me sens vachement plus cultivée maintenant.
Donc venez voir la pièce tout simplement, je pense que...
Pour voilà. Tennessee.
Pour Tennessee. Tennessee. Pour Tennessee, évidemment. On va changer le nom de la pièce.
Non mais ça va vous faire du bien de regarder cette pièce. On en a besoin aujourd'hui.
Puis vous pourriez être surpris, ça pourrait être pas mal.
Ben merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.
Vous l'aurez compris, Toa est une pièce où se mêlent réalité et théâtre. Mais là où certaines œuvres entretiennent le rapport fluctuant entre art et réalité, Sacha Guitry avait tendance à dire qu'il n'était honnête que sur scène. On pourrait se demander en quoi un rôle écrit, mesuré et composé relève de l'honnêteté. Mais il semble que le cas Guitry fasse exception. Ses personnages sont empruntés à la vie réelle et sont exutoires de ses affres relationnelles. Il écrit sur, pour et avec chacune de ses 5 épouses et son père avec qui il fut brouillé pendant 13 ans. Comme souvent chez les artistes, la vie privée devient publique à travers sa théâtralisation et son esthétisation. Dans Toa, il nous parle d'une dispute entre un metteur en scène et sa maîtresse. Lorsque ce dernier décide d'en faire une pièce, ça tourne au déballage public, une mise en abîme quasi ironique. Pourtant, quand Quentin m'a parlé de cette pièce pour la première fois, j'ai pensé à ces disputes, ces conversations houleuses qu'on se rejoue dans notre tête pour trouver la réponse, celle qui aurait pu claquer le bec de notre adversaire, parce qu'on est trop dépité d'admettre que sur le moment, on n'a pas su quoi répondre. Dans mes élucubrations, j'imagine Guitry écrire Toa avec cette intention. Une dispute avec son épouse de l'époque, Jacqueline Delubac, ou une de ses maîtresses, et la ferme intention de non seulement trouver la réplique qu'il aurait pu sortir, mais en plus de créer un espace, une pièce, où l'adversaire en question n'aurait aucun droit de réponse. C'est peut-être bien parce que Guitry est effroyable d'intelligence et d'acuité que même dans une pièce où il pourrait répandre sa colère et son indignation sans répercussion, qu'il invente le personnage de l'épouse, interrompant la pièce pour donner son avis. Mais ma théorie ne tient pas la route. Sacha Guitry aurait su quoi répondre dans une dispute. Cette émission fait partie de la saison 2 des 3 coups sur les ondes. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site Radio Campus Angers. Nous vous remercions de nous suivre et nous espérons que vous profitez des pièces diffusées sur Twitch et YouTube. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les dates de diffusion, suivez-nous sur Instagram et Facebook @festivallestroiscoups. Un grand merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses d'avoir participé à notre émission. Juliette Chevet, Louise Lefebvre, Justin Loisy, Inès Poirier, Martin Bélier et Amélie Rochet. Merci à Radio Campus de nous prêter leur studio et leur matériel et de nous allouer de leur temps. Merci également à Cobalt d'avoir cru en notre projet. Merci pour le mixage et le suivi du projet. Cette émission est réalisée par 3 membres du bureau des 3 coups. Dorian Rochet, Emma Muller et moi-même, Zoé Paris. L'émission est coproduite en partenariat avec Cobalt. Merci beaucoup pour votre écoute et à jeudi prochain, 16h30. À bientôt.